global, les deux lignes sont à peu près équivalentes. Également la participation à la commune d'Alzon pour la question de l'eau pendant la sécheresse de cet été, de l'ordre de 10 000 euros. Enfin, on a un certain nombre de charges financières supplémentaires qui sont liées au portage des projets en attente des subventions qu'on a. Les financeurs, tous, hein, l'État le premier, ont de plus en plus de mal à verser dans les délais à la ville. On pourra y revenir si vous voulez. Déjà pu rembourser les 500 000 euros d'emprunt de l'année dernière, c'est une bonne chose, et donc on a un peu plus de charges financières que ce qu'on avait prévu. En recette, pour équilibrer, on a essentiellement cette question sur les dotations. On a les retours en fin d'année, vous voyez là, par exemple la dotation de solidarité rurale, à la notification de son en décembre pour l'année 2024. Pareil, la dotation de biodiversité à l'unité rurale. Et les autres dotations, c'est la participation du conseil régional au fonctionnement. On a aussi des subventions, mais on a aussi une exception guyanaise. Enfin, les remboursements de la cantine à 1 euro de la part de l'État pour 20 euros. Je crois que c'est pour le fonctionnement. Je ne sais pas si on s'arrête là pour les questions sur le fonctionnement et l'investissement.
Vas-y, puis on verra après.
Sur l'investissement. Dans les nouvelles dépenses pour la fin d'année, on a une opération qui s'équilibre en dépenses et en recettes au niveau du CIVOM, qui sont des écritures du même montant, hein, 60 000 euros par part. On a un deuxième changement d'écriture entre des acquisitions mobilières et des bâtiments communaux. Ça, c'est sur la question des jeux. On l'avait prévu au chapitre 902, et finalement, le Trésor public nous demande de l'inscrire au chapitre 901. Donc, on met moins 100 000 euros d'un côté, plus 100 000 euros de l'autre. Pour ce chapitre-là. Sur l'éclairage public, on n'a pas l'entièreté du programme, donc moins 100 000 euros là, puisqu'on n'a pas reçu de fonds verts sur... sur l'aménagement des bords de l'art et sur le City Stade, on a pu faire moins cher que prévu pour cette année, donc on peut retirer également des dépenses à ce niveau-là, 40 000 euros sur les bords de l'art, 10 000 sur le City Stade. Enfin, sur le pôle d'enseignement supérieur, là par contre, on a vraiment pu dérouler des travaux, beaucoup de choses, d'ailleurs, notamment l'achat du mobilier. Un petit peu plus de dépenses cette année. On pensait les faire de toute manière, on ne savait pas si on les ferait en 24 ou en 25, et on les fait effectivement en 2025. En 2024, puisque vous avez vu. Là-dessus, on a des subventions, donc c'est des dépenses, mais qui sont en partie pour...
Alors, place aux questions. Avez-vous des questions? Je rajouterai que là, sur les dépenses, donc les charges de personnel, il y a surtout aussi les 11 élections. Personnes pour le recensement et le coût des élections. Hein, qui les deux tours d'élections. Oui, les deux tours d'élections. Avez-vous des questions? Pas de questions, on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Délibération numéro 2, budget 2024, donc décision modificative numéro 4, budget de l'eau potable. Jules Chameau.
Donc, concernant le budget de l'eau, cette décision modificative de fin d'année nous permet d'ajuster... Les montants qu'on aura en facturation au plus juste sur notamment les factures d'énergie où on a beaucoup de boulot à ce niveau-là. Donc on a 20 000 euros de plus pour l'EDF, 5 000 euros de plus pour les carburants, essentiellement pour les pompes de relevage, des choses comme ça. On a également un peu plus de dépenses, mais qui sont compensées sur les recettes. Là, c'est juste la partie boîte aux lettres au niveau du CIVOM. Vous avez une ligne en dépenses, autres taxes et redevances de 50 000 euros, et vous retrouvez tout en bas du tableau en recettes, une ligne à 30 000 euros, une ligne à 16 000 euros, redevances d'assainissement, redevances pour modernisation. On perçoit toutes les recettes de l'eau et on en reverse une partie aussi, comme pour ce qui concerne l'assainissement, donc là en phénomène de boîte. En gros, 40 000 euros de DM si on enlève cette écriture blanche. Et donc, en recette, ces 40 000 euros viennent du produit de la vente de l'eau donnée aux habitants.
Question? Pas de remarques. Et bon, on va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Budget, délibération numéro 3, pardon. Budget 2025, autorisation du conseil municipal, dépenses d'investissement. Jules Chameau.
Cette délibération, elle est adoptée annuellement par la ville pour pouvoir démarrer... l'année 2025, sans avoir encore voté le budget, il faut ouvrir les crédits. En général, on les ouvre à hauteur de 25%, enfin moins de 25% de l'année précédente. Et donc cette année, vous avez la ventilation qui vous est proposée directement pour pouvoir démarrer un certain nombre de la délibération classique qu'on adopte en fin d'année pour démarrer l'année prochaine. Est-ce qu'il y a des questions ?
On avait fait le budget en décembre, oui. Mais vu la situation de l'État n'a pas fait son budget, donc
là, ça devient. Il y a des communes qui font cet exercice-là, qui ont voté en décembre, mais ça devient vraiment de la politique fiction, quoi.
Et oui.
On écrit des chiffres vraiment au hasard, quoi.
On n'est pas.
Même pas les doctrines, quoi. Le fonds vert, combien ils vont enlever, est-ce qu'ils enlèvent 1 milliard, est-ce qu'ils enlèvent pas, est-ce qu'ils enlèvent 500 millions, et donc combien de monde. Là, vraiment, les communes qui font cet exercice-là.
Le dernier, effectivement, on avait voté en décembre, mais là, les régions et les départements n'ont pas voté leur budget non plus.
Non, tout le monde est dans cet état-là. Ou alors, enfin, ceux qui le votent l'assument, quand les maires le disent, ou les maires, les présidents, les présidentes le disent.
Nous, on faisait, on votait en mars, en principe, et puis pendant deux années à la suite, on a voté en décembre.
Ça évite toutes ces délibérations de démarrer à M5.
Ouais,
ça évite
toutes
de pirouettes budgétaires. Là, vraiment, c'est. On peut faire l'exercice.
On peut le faire, mais en fait, c'est pas. C'est réel, quoi. Alors, réquisition, c'est des enveloppes qu'on se réserve pour des travaux qui pourraient se faire entre des urgences sur bâtiments, voilà. Donc, c'est des enveloppes budgétaires qui sont inscrites pour pallier à des travaux qui devraient se faire avant le vote du budget. C'est-à-dire que c'est
un peu tous les chapitres.
Hein. Oui, sur tous les chapitres, il y a une enveloppe.
Pas forcément des choses très parenthèses, c'est une étude.
Vous avez des questions ? Marc, donc on va passer au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Merci. Délibération numéro 4, approbation de la redevance consommation d'eau potable et performance des réseaux d'eau potable pour l'année 2025. Jérôme Sauveplan.
Alors, ça c'est l'agence de l'eau qui décide de modifier le mode de facturation, inciter les communes à être plus vertueuses en matière de gestion de réseau. Donc en gros, il est un quotient, alors là ils l'ont fixé parce que c'est la première année de façon claire, et après il va être modéré plus ou moins en fonction de la connaissance des réseaux et de la performance des réseaux. Et l'idée étant de plus le réseau est performant, abonnés, c'est facturé directement aux abonnés. Voilà, donc là il s'agit de prendre cette délibération. Le quotient cette année, donc le numéro 2, la redevance elle est fixée à 0,05 et en gros une redevance pour 2025 à 0,01 euro hors taxe, qui est donc avec une donc ça, ça vient conforter l'idée d'être plus performant sur nos réseaux. De mieux les connaître.
Comment va être répercuté sur 2 centimes, c'est ça ?
2 centimes.
Mais c'est hors-taxe.
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 2 centimes hors-taxe, ça ne fait pas 20 centimes.
Ça, c'est 0,2. Ça, c'est 0,5. À côté, c'est quoi ? 0,005. Une taxe, c'est ça qui m'a.
Alors, c'est une taxe qui vient s'ajouter à, en fait. En fait, elle remplace, le nom, hein, je ne l'ai pas appelé par cœur, elle remplace une taxe qui s'appelait pollution de l'eau, un truc comme ça.
On a la ligne durable qu'on a fait tout à l'heure.
Alors,
c'est nous, c'est la commune.
La commune, si on pas la taxe, elle est
non, là, en fait, on n'a pas le choix.
On n'a pas le choix, c'est l'agence de l'eau.
C'est faire supporter aux habitants quelque chose dont vous êtes responsable.
Alors, il n'y a pas le numéro de l'agence de l'eau, mais par contre, on peut le trouver facilement. Mais ce n'est pas nous qui le décidons.
En fait, alors,
pour les communes qui ont des grosses fuites, pour les communes qui ne connaissent pas leur réseau, oui.
Oui, il y en a une grosse sur la route de Ganges, là, oui. Ils y sont, les gars, oui.
Alors, c'est écrit tout petit.
C'est écrit tout petit, oui.
Vous l'avez sur les factures d'eau et à l'écran.
Moi, je regrette, mais par rapport au mécontentement que j'ai vu jusqu'à l'arrivée de la facture, on a pu le lire, ce n'est qu'on n'avait pas aussi une augmentation supplémentaire.
Bien sûr.
Après. Quelle que soit la décision.
Non, mais là, Là, la question, c'est juste d'approuver, enfin de prendre conscience et de, pour, juste pour pouvoir l'appliquer de façon légale sur les prochaines factures. Mais ouais. En gros, aujourd'hui, les communes qui ne votent pas ça, elles se mettent hors la loi.
Les gens ont aucun moyen d'améliorer un réseau. On peut améliorer un réseau avant un compteur.
Alors, effectivement, non, mais alors.
Alors mais avant un compteur,
exactement.
Les gens n'ont aucune prise dessus, donc c'est à eux de l'assumer. C'est pas à eux.
Mais c'est une façon.
C'est un côté que les alors, gens viennent de faire un effort. Là, les habitants viennent de faire un effort énorme. Il y a vous qui n'y a pas. Et là, vous venez d'augmenter de 31% le prix de l'eau. Voilà.
Oui, mais après, on peut dire ce qu'on a envie de dire, il n'y a pas de problème. Là, l'idée, c'est de remplacer une taxe.
Donc,
laisse-moi finir la phrase, s'il te plaît, c'est fatigant. Donc là, on vient remplacer une taxe, ce n'est pas une taxe, tu as demandé tout à l'heure, c'est une taxe qui venait s'ajouter. C'est une taxe qui apparaît sur une ligne, donc c'est une taxe que tu vois, mais c'est une taxe qui vient remplacer une. Donc j'ai retrouvé, j'ai reperdu. Mais bon, putain, j'ai reperdu.
C'est la troisième ligne sur le. Elle s'appelait enfin, redevance pollution domestique et maintenant elle s'appelle
voilà.
redevance pollution de votre origine domestique.
Et là, du coup, ils ont dit avant, elle était fixe. Elle était fixe, quelles que soient les communes. Et là, pour inciter les communes à être performants, ils font 45. Ça. Donc la taxe, elle est maintenue, c'est la même, sauf que là, elle est proportionnelle.
Elle change de nom.
Et c'est la meilleure façon. D'être transparent,
oui.
C'est le meilleur moyen d'être transparent avec les abonnés. Parce qu'aujourd'hui, les abonnés, ils ne sont pas au courant de comment est performant leur réseau. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, parce qu'un réseau qui n'est pas performant, ce n'est pas compliqué, le prix, il est répercuté aussi. Parce qu'un réseau qui fuit à 80%, c'est 80% de factures qui part, qui, enfin de coûts qui part en l'air et tu les payes quand même au final. Là, tu sais ce que tu payes. Là, tu sais si ta commune elle est efficace ou pas dans son réseau. C'est le seul moyen de le savoir.
C'est ce qu'on fait depuis des années.
C'est le but. Non, mais les gens ils sont pas responsables. Sauf qu'aujourd'hui tu le payes sans savoir. Aujourd'hui tu habites dans une commune.
On s'est mis à payer le GEMAPI.
Aujourd'hui.
C'est normal, c'est la gestion du milieu. On va payer l'agence de l'eau pour un prix qui ne nous revient pas.
On le payait déjà.
Mais si, mais bon. Et l'eau, si le réseau n'est pas performant, c'est pas la faute des habitants.
Non, mais là, les habitants. Là, les habitants, si le réseau n'est pas performant, ils le sauront.
Pas trop cher, et que derrière, les investissements pour faire fonctionner le pas si bien fait que ça. Voilà, moi, c'est une critique ouverte.
Et bien, en fait, je la comprends pas, des critiques ouvertes.
Je veux dire par là qu'il faudra une réseau performant, comme ça, on ne sera pas taxé.
C'est exactement ce qu'on fait. Merci de remarquer les efforts.
Il faudra plus vite et mieux.
Depuis 2008, en tout cas depuis 2008, le réseau, on a 72 km de réseau, et depuis 2008, donc tous les travaux qui ont été faits en centre-ville ont vu leur réseau rénové, complètement... réhabilité. Donc il y a quand même un gros effort et là on continue donc avec la rue Gisèle Halimi, les réseaux sur l'avenue Jean Jaurès, tous les réseaux ont été faits. Donc petit à petit et depuis 2008, je crois qu'on a mis plus de 10 millions d'euros sur la voirie là, en comptant les réseaux. Donc les réseaux s'améliorent et puis le nombre de fuites, on était passé de 800 000 mètres cubes en 2014, 800 000 mètres cubes de fuite donc pour le Vigan, de consommation globale, oui. Et on est passé à 400 000, absolument. Un peu moins de 400 000. Et il faut poursuivre, évidemment, et il faut poursuivre, je suis d'accord avec toi. On est bien obligé.
On est assez à 1 centime d'euros. Moi, il y a une petite année prochaine, dans 2 ans, on sera à 15 ou à 20.
Alors, c'est ça, en l'occurrence,
plus on améliore le réseau.
Moi, l'occurrence, elle fait mal au Viganais.
Plus on améliore le réseau.
Je ne sais pas si vous regardez un peu les réseaux, mais ça cuine un peu.
On les regarde pas.
Moi aussi, je cuine parce que je consomme de l'eau.
Mais moi aussi, je les paye. Je les paye.
On a fait le paye.
Par contre,
c'est ça que je voulais dire.
Alexandre, je te remercie, pardon.
Juste une minute.
J'ai une réponse, pardon, 30 secondes. Justement, tu dis, on ne sait pas ce qui sera demain, etc. C'est notre travail, je pense collectivement en tant qu'élu, que de se dire, il faut veiller à ce que ça n'explose pas pour les factures des Liganais. Donc faire un travail prospectif, se dire sur les prochaines années, combien ça pourrait coûter. On a fait un travail, et c'est notamment à ça que nous sert l'ingénieur qui actualise le schéma directeur de l'eau, sur les perspectives qu'on pourrait avoir en fonction de deux scénarios qu'on a fait. Soit on est pessimiste, on ne fait pas de travaux, on laisse comme ça, on ne touche pas aux tarifs, mais on n'a pas de capacité à rénover plus rapidement le réseau, et on regarde ce qui se passe au niveau de l'agence de l'eau. Soit on est optimiste, on fait davantage de travaux, on va plus vite, on rénove davantage les châteaux d'eau qui sont en mauvais état, les anciennes conduites en plomb, notamment la Merlière, mais pas que, à beaucoup d'endroits où il y a des difficultés, et on voit l'évolution. Cette année, on est à, c'est les fiches, 45 centimes d'euros hors taxes qu'on paye, que les Liganaises et les Liganais que nous payons sur nos factures directement à l'agence de l'eau. Ça ne va pas dans les caisses de la mairie, on n'en touche pas un centime. Les Liganaises et les Liganais payent cette taxe directement, on fait boîte aux lettres, on l'aperçoit comme le civum et on la rend immédiatement en intégralité à l'agence de l'eau. L'année prochaine, 55 centimes, 10 de plus. L'année d'après, 64 centimes, 12 de plus. L'année d'après, 72 centimes. Et en 2028, 78 centimes. Autrement dit, quasiment 10 centimes de plus tous les ans par mètre cube sur les factures des Liganaises et des Liganais. Ça, c'est si on ne fait pas plus de travaux. Les décisions que l'on prend, on essaye de les prendre éclairées. En revanche, si on fait des efforts, on est à 45. L'année prochaine, peu ou prou, on ne coupera pas 55. En revanche, les années suivantes, 53, 50,7, 49,55. C'est évidemment le scénario idéal. On va essayer de s'en rapprocher le plus possible. On reste, voilà, qu'on maintienne 45, 49 d'ici 2028 et après, qu'on ait le même niveau et que les Liganaises et les Liganais ne soient pas payés des taxes à l'agence de l'eau qui explosent, mais plutôt un prix juste et raisonnable de l'eau qui finance les investissements de notre réseau plutôt que ça parte à l'agence de l'eau et ça nous revient ou pas au petit bonheur la chance par des subventions. Le but de ce qu'on a, c'est pas voir ce qui se passera peut-être et on attend. Non, c'est on travaille, on regarde, on est sérieux, on fait des prospectives, on se penche sérieusement sur les questions et on essaye de limiter au plus possible l'impact sur les factures des Liganaises.
Et on avait voté, rappelez-vous, une aide, donc un pourcentage, c'était 1% sur, sur notre de l'eau, donc pour les familles en difficulté qui peuvent demander donc cette aide au niveau du TIS et la possibilité, oui, de payer en plusieurs fois.
Si on prend d'avoir des aides pour arriver à joindre les boulots et une facture, tout le temps, on doit mettre les gens sous perfusion pour qu'ils arrivent à payer.
Mais en même temps, on ne fait pas de réseau, on réhabilite pas les réseaux.
Là, c'est la porte ouverte à dire ça va augmenter.
Merci.
On met 1 centime cette année, on mettra 10 l'an prochain.
Ah non, dans tous les cas, ça va augmenter. Le but, c'est de l'éviter.
Ce qui est dommage, c'est du mandat.
Ah ben oui. Évidemment, depuis 2017, ça n'a pas été augmenté. Et l'assainissement n'a pas été. Ou l'abonnement n'a pas été augmenté depuis. L'abonnement n'a pas été augmenté depuis 2011. Voilà. Donc ça c'est la taxe demandée, donc imposée, la redevance imposée par l'agence de l'eau.
Sur l'assainissement, c'est géré par le privé, c'est encore moins bien géré. Oui. Là ils font des à-coups d'augmentation quasiment tous les 3 ans.
Donc, y a-t-il d'autres questions, d'autres remarques? On va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Délibération numéro 5, révocation des conventions de distribution gratuite d'eau potable. Jérôme Sauveplane.
Alors ça, c'est un petit nettoyage des terres droits qui couraient sur le d'eau sur la mairie. Et du coup, y a plusieurs choses qui se sont retrouvées ne pas être conformes au droit, dont qui bénéficie de 100 mètres cubes gratuits, opération 1971, et du coup là on vous demande de révoquer cette convention. On a le droit de donner, de
distribuer de l'eau gratuitement. Voilà. Donc depuis 2008, il y a l'article, vous l'avez, hein, du Code général des collectivités territoriales qui dit que donc nous n'avons pas le droit de distribuer de l'eau gratuitement. C'est interdit. Régularisation par rapport à cet article. Ils sont, bien sûr. Ah ben ils sont pas contents, évidemment. Hein. Eh oui. Bon. On n'a plus le droit depuis 2008 de distribuer de l'eau potable gratuitement.
Et vous ne le saviez pas avant?
Ah
Ils sont combien ?
Petit à petit, on découvre des choses.
Mais ça, on le savait, parce que du coup, on ne les facturait pas. Donc le problème est que, avant de révoquer un autre, à régler, et petit à un jour. On a déjà voté des modifications du règlement plusieurs fois. J'ai pas entendu.
Non.
Il
n'y
a pas d'effet
à partir du 1er janvier 2020. Remarque. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Merci. Délibération numéro 6, lancement d'une étude pour l'élaboration d'un plan de gestion pour la promenade des Châtaigniers du parc des Châtaigniers. Demande de subvention auprès de la DREAL Occitanie. Sylvie Pavlista.
Alors, pour rappel, le projet de revalorisation du parc des Châtaigniers a démarré donc en juillet 2024 et celui-ci, suite à l'obtention de l'autorisation ministérielle du permis d'aménager d'avril 2023, pour être très précis. Dans ce permis d'aménager, nous avions plusieurs prescriptions, entre autres celle de recourir à un paysagiste concepteur qui nous a aidé là, pour l'emplacement des jeux, pour les cheminements du parc tel que c'est en train d'être réalisé. Et une des prescriptions aussi, c'était qu'on établisse une gestion précise du parc, une gestion au niveau des arbres, puisqu'on a des châtaigniers qui sont dépérissants. Il y a eu d'autres arbres qui ont été mis au fur et à mesure dans le parc, mais en fait, forcément, ça a perdu un petit peu son origine avec les châtaigniers, mais l'idée c'est de réfléchir à quelles sont les essences qui sont judicieuses à implanter dans le parc, et également si on peut faire aussi des aménagements qui nous permettraient de retenir un peu plus l'eau de ruissellement. Donc pour cela nous avons besoin d'une étude. L'ADREAL est partenaire puisqu'on a réfléchi donc avec eux à ce sujet. Il serait partenaire à hauteur de 24 000 euros pour une étude qui coûte 1 euro. Donc, à notre charge, il reste 6 000. Donc, 20% du budget pour nous permettre de faire un plan de gestion pour le parc, un plan qui serait sur 3 ans, je crois.
Non, plus.
À long terme. Voilà la délibération en question. Oui, leur durée de travail, c'est 16 mois.
Remarque ?
Par rapport à ça. Un expert à faire genre de café parce que les spécialistes ne savent pas ce qui va se passer.
On a des moyens, des outils qui nous donnent des références sur des carrés d'un kilomètre sur un kilomètre. Donc, on a un niveau qui va nous sortir 50 mètres sur 50 mètres. Après, ils retravaillent en fonction du niveau. Si tout le monde respecte l'accord de Paris, on arrive à un tel niveau. Et si je crois que le scénario le pire, c'est plus 4,5 degrés. Mmh. En gros, au Vigan, c'est l'Andalousie.
Oui, c'est ce qu'ils ont.
Les châtaigniers et même d'autres arbres ne vont pas tenir. Pas longtemps. Et ça, au prix de tout le monde se gratte la tête et on ne sait pas trop comment on va mettre que des panalettes et je ne sais pas quoi. Parce que généralement, c'est très compliqué.
Ce serait une orangerie.
Des
cactus.
Parce que c'est quand même un changement énorme.
Oui. Ouais.
Les bourgeois, ils auront peut-être le climat de Marseille. Quoi. Donc ça va. Et ça. C'est la brutalité du système. Parce que quand ça évolue sur des décennies, bon, là c'est 50 ans.
Oui,
2000. Voilà. Partager ça.
Tout ce plan de gestion qui va nous permettre d'intégrer. C'est une des raisons, oui. Une des raisons donc, pour créer un îlot d'air, pour aussi sécuriser par rapport au ruissellement. Parce que sur cette route, je me souviens, sur cette route, quand il pleut, quand on a un épisode de Cévenol, le quai, la rue sous le quai, sinon en partie sur raison des eaux de ruissellement de cette route. Donc c'est vrai qu'on a mis, et ça moi j'ai été très, très ferme avec la DREAL la dernière fois, par rapport aux... d'évacuation de l'eau parce qu'ils n'étaient pas c'était pas comme ils voulaient, mais voilà, quand on connaît les eaux de ruissellement, quand on a un épisode de Cévenol et on aura de plus en plus d'épisodes de Cévenol d'après les visions, pour moi c'est important d'arriver à les canaliser. Quand on voit ce qui s'est passé à Valence, Moi, je préfère être hyper prudente et hyper... voilà, donc il faut...
On travaille avec l'étude de stationnement, la circulation. Il y a eu des propositions.
Oui, tout à fait.
Après, c'est sûr qu'il faut que... Après, c'est vrai qu'il faut que les parents d'élèves, au-delà de ça, c'est pas des bébés, ils peuvent marcher un petit peu. Donc, bon, il y a aussi tout à travailler.
Enfin, on travaille sur cette question.
Ils peuvent repartir par la rue du lycée, par exemple.
Il faut arriver par la rue du lycée.
Oui, enfin, un public, on fait demi-tour, ça dépend dans quel sens on arrive. Mais en tous les cas, pour contourner cet espace-là, il y a la rue du lycée qui a un sens unique.
La rue du lycée n'est pas adaptée pour recevoir.
Mais tu sais que quand j'étais au lycée, je me rappelle, le bus, il était en plein milieu des châtaignes.
Oui, il était au milieu des châtaignes.
Le bus, il y en avait un, il était en plein milieu des châtaignes.
Aussi, oui.
À chaque fois, on traversait, on risquait de se faire écraser. Une fois, les voitures, elles doublaient. Et la circulation, elle était pire.
Alors moi, quand j'étais au lycée, je vais raconter ma vie, désolée. Mais c'est vrai qu'il y avait un bus qui était dans cette rue.
C'était l'anarchie.
Et les bus pour monter jusqu'à Cavaillac, ils étaient garés devant l'accueil Cévenol. Donc on traversait deux fois la rue et on courait comme des tarés parce qu'on est ado et qu'on est un peu inconscient. Donc on traversait le Jaurès et on traversait le boulevard des Châtaigniers pour aller prendre le bus à fond parce qu'on avait peur de louper le bus.
Il y avait tout le monde qui était en warning sur le Jaurès.
Voilà. Donc là, on est en train de... Voilà, on travaille sur... il y en avait quand même.
Mais là, on travaille sur des prévisions parking, justement, pour prendre circulation assez bien. On n'est pas... Enfin, voilà, les solutions sont mises en place. Voilà, que la rue Gisèle-Alimi sera terminée dès que les travaux sont terminés. On proposera un centre de circulation adapté pour sécuriser...
Les gens qui sont pas très contents, parce qu'ils disent que ça devient un point dur pour eux pour passer.
Et oui.
Et
on a travaillé avec les gendarmes.
Mandagou, ils passeront plus par là. Mandagou, ils pourront passer par. Enfin, ils peuvent passer par derrière.
Ça va aussi là.
Mais quand on est en voiture, c'est pas d'habitude, en fait. C'est ces habitudes qui sont à modifier. On y travaille, on utilise ça.
100 jours par an.
Avec des histoires de parking, de sens de circulation aussi qui ont été etc.
Il y a eu une réunion publique de restitution en septembre. Franchement, c'était très bien. Je regrette que vous ne soyez pas venus. Mais c'était franchement un très bon bureau d'études, vraiment.
On est venus aux réunions avant, en préparation, je ne sais pas si tu te souviens, on est venus après. Moi, ce genre de réunion, pourtant, j'ai envie d'y aller, de débattre et d'écouter les gens. Ça rentrait dans ces débats-là, on va dire, ouais, tout ça, c'est politique. Ah, tu débattes, vous débattez.
Non, c'était très constructif, oui.
Là, ce qui est dommage, c'est que...
Vous administrez.
Oui.
Et moi, j'ai eu des retours quand même, parce que je sais qu'il va, qu'il va aller.
Mais il y a des administrés qui ont voté pour toi, donc c'est bien que tu sois en construction, justement, avec ce genre de...
Il y avait des gens aussi qui avaient voté pour toi.
C'était différent. En septembre, c'était une restitution. Il n'y avait pas. Il y avait des questionnements qui pouvaient.
Moi, je parlais de la réunion du quartier, oui, pardon.
Non, ça, c'était pas du tout. C'est une réunion publique pour la restitution de l'étude stationnement et circulation dans le Vigan.
Qui était intéressante, franchement
intéressante.
La retrouver. J'ai un peu du temps, mais je suis désolé.
Ah, ben, bien sûr. C'est sûr.
Vous pouvez la.
Être là, comme blague, et faire.
Vous pouvez la retrouver sur le site internet de la mairie.
Oui.
Et je vous encourage les uns et les autres à vraiment la lire parce que c'est très intéressant. Après, on va falloir donner des priorités. C'est très intéressant.
Oui, ils ont fait des comptages. Tout à fait. Il y a des comptages qui ont été faits. Tu retrouves cette étude et tout le PowerPoint qu'ils ont, tout ce qu'ils ont étudié avec les comptages et tout, sur le site de la mairie. Tu l'as. Tu as toute l'étude qui
est
passionnante, franchement, cette étude. Mais vraiment, très, très instructive. Vraiment.
Donc, vous estimez que là, à un endroit...
Oui, mais la rue, évidemment, la rue donc centrale départ, on la ferme. Et donc, on travaille avec l'APM, on travaille avec la cité scolaire, l'unité territoriale pour une sécurité.
D'autres associations aussi.
Voilà.
En fait, je mettrai un bémol à ce que tu dis. Tu es si, pas sourd et aveugle. Ouais. Donc on entend. On entend les difficultés et on va essayer de trouver des solutions. Que bah, notre ambition, c'est de mettre en sécurité les citoyens le plus possible. Pas les mettre dans une situation dangereuse.
Oui, on n'a pas envie de les.
Donc, voilà. Il y a des solutions qui sont à trouver et qu'on va tâcher de mettre ensemble, mais pas nous tout seuls, nous avec, comme je disais, des associations, des conseils. Voilà.
Et bon, en tout cas, en termes de sécurité, pour une fois, on ne peut pas dire que.
D'accord. Moi, j'y suis tous les jours et je peux vous dire qu'il y a déjà eu des accidents qui ont été évités de peu. Le matin, actuellement, quand il fait entre chien et nous, quand on arrive, on a les gamins qui sont à 2 mètres après les plots. On les voit à peine, qu'on tourne, que tous les profs arrivent, les bus qui passent, c'est vraiment faire preuve de mauvaise foi pour dire alors, que c'est plus sécurisé qu'avant, parce que ça, c'est
plus sécurisé. Alors, c'est plus sécurisé qu'avant, parce qu'avant, il n'y avait pas de plomb.
Le matin, le voir, parce que ça.
Mais on est venu déjà, j'ai pas vu le matin aussi, il y a pas de
plomb, donc forcément, c'est mieux qu'avant.
Et vous n'avez pas un policier municipal qui vous raconte tous les matins comment ça se passe.
J'y passe tous les matins.
C'est plus sécurisé avant qu'avant maintenant. C'est vraiment, du moins c'est ça, c'est inadmissible.
Les travaux ne sont pas terminés aussi. Rue Gisèle va terminer dans la circulaire.
Alors, tu étais en train de parler des plots. Donc les plots, ils existent. Alors, non, les plots, ils existent, oui ou non? Oui, ils existent. On pense, 1 an et demi en arrière, il n'y avait pas de plots. Ah, et bien voilà. Donc c'est mieux qu'avant.
C'est un peu mieux qu'avant.
Voilà. Voilà. Et ce n'est pas de la malhonnêteté de dire que c'est mieux qu'avant, puisque par exemple, pour prendre cet exemple que tu viens de donner.
C'était mieux.
Non, moi je parle de l'ancienne desserte des bus. Il n'y avait que le boulevard des Châtaigniers avec le crachat de Python. Peut-être à améliorer, mais la sécurité est pire maintenant, je vous le dis. Et je constate tous les matins, donc oui. J'y passe tous les matins, et tous les matins, tout le monde, les enfants touchent les pare-chocs des voitures, quoi, au moment, à l'endroit du parking des professeurs. C'est la même chose.
Y a-t-il d'autres remarques? Pas d'autres
et
remarques?
Par rapport à la rue, il y avait des réunions. Imperméabiliser les sols, faire des nous avec des bornes, ouvrir à certains moments de la journée. Des solutions, moi je trouve. Voilà.
Eh bien, la solution n'a pas été retenue et ces solutions-là.
Elle était déjà
et tout changement est anxiogène aussi, puis quand les gens ont pris l'habitude.
Après, voilà. Là, les solutions dont tu parles, c'était aussi des problématiques de gestion de bus. Bon, c'est pas la peine. Allez.
Alors, y a-t-il d'autres réflexions, d'autres remarques? Il n'y en a pas. Donc, qui est contre? Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Septième délibération. Donc, subvention, demande de subvention au titre des amendes de police 2024. Sylvie Pavlista.
Alors, cette délibération, il y avait une délibération un peu semblable qui avait été votée en fait en février 2024. Mais depuis, nous avons travaillé davantage en collaboration donc, avec l'unité territoriale du Vigan pour justement sécuriser cette zone-là. Donc c'est bien dans la suite. La zone en question, c'est le boulevard des Cévennes. Donc là, on demande une subvention au titre des amendes de police. Pourquoi faire? Pour améliorer le déplacement des piétons qui vont chercher leur bus, comme on était en train de le dire, de créer un abri-bus avec un accès PMR, puisque pour l'instant, on n'en a pas, de quoi faire, et aussi de travailler sur le parking qui est en contrebas, en face des terrains de sport, donc d'améliorer sa rampe d'accès, avec là aussi un aménagement PMR, de permettre d'avoir un petit plateau pour que quand on sort du parking, on ne soit pas en pente, mais qu'on ait la norme, c'est d'avoir un plateau de 5 mètres de profondeur. On a un petit plan à l'écran là, pour pouvoir sortir en toute sécurité. Donc là, on est dans un projet justement d'amélioration de la sécurité aux abords de la sortie scolaire et une amélioration aussi du parking qui est nouveau là en face du sport. Donc, après ce travail avec l'unité territoriale, On a déjà réussi à avoir la notification actée par les amendes de police et les départements du Gard à hauteur de 24 000 euros et pour une prévision de dépenses à hauteur de 62 000. C'est pour ça que cette demande de subvention, elle avait déjà été faite en février, mais comme on l'a retravaillée avec l'unité territoriale, évidemment le policier municipal et les services techniques, on a un projet qui est plus élevé puisqu'il est plus global. Avant, on avait parlé uniquement du parking. Et là, on fait l'aménagement, la sécurisation de cette rue, ce boulevard des Cévennes, abribus et parking. Voilà, ce qui resterait à la charge de la mairie, 38 000 euros et des poussières.
Des remarques ? Pas de remarques. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Merci. Huitième délibération, alors la huitième et la neuvième, c'est la même délibération en fait, c'est dissimulation des réseaux secs, avenue des Combes, donc tranche 1, tranche 2. Donc c'est l'avenue des Combes, donc cette avenue est très attendue donc, par les habitants de ce quartier, donc sur la rénovation, en tout cas sur la partie... sur l'enrobé. On a eu une proposition du territoire énergie, donc anciennement SMEG, pour enterrer les réseaux secs. Donc on profite de cette proposition du territoire énergie pour rénover cette avenue. Donc elle était prévue en 2025, mais simplement sur de l'enrobé. Donc on profite quand même de la proposition de Territoire Énergie. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de réseaux secs, hein, électricité et autres, qui c'est très fourni. Donc voilà. Il nous demande de prendre une délibération de faire deux tranches de travaux. Par contre, ce sera fait en une seule tranche. Il nous demande de le diviser en deux, mais ce sera fait sur une seule tranche. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Donc, il y a, au niveau du le total des travaux, s'élève à 500 000 euros. Sur les réseaux secs, on a 377 000 euros hors taxes, donc de travaux, dont 125 000 euros de subventions de Territoire Énergie. Ok. Et on aura 100 000 euros d'enrobé, donc de TTC, à la charge totale de la mairie du Vigan, sur lesquelles nous n'avons pas droit à des subventions. Donc il y a un total, en gros, ouais, de 500 000 euros de travaux. Les travaux vont démarrer en février par rapport donc, aux services, les services de l'eau, justement. En février, change tous les compteurs d'eau. Puisqu'il faut changer ses compteurs d'eau, hein, ils ne sont plus adaptés. C'est dans la continuité hein, des changements de compteurs d'eau. Et en mars-avril, ils démarrent les travaux pour enterrer les réseaux secs. Il y a des travaux jusqu'en juillet. Et en septembre, l'enrobé est programmé. Voilà. Est-ce que... Vous acceptez qu'on vote les deux délibérations en même temps? C'est les deux mêmes délibérations, mais voilà, il nous demande de les partager en deux délibérations, de faire deux tranches, le partager en deux tranches. Donc, vous êtes d'accord, on vote pour les deux? Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Moi, je trouve que c'est une bonne opération de pouvoir enterrer les réseaux secs. Et dès qu'on peut le faire, il faut... Ouais. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Délibération numéro 10, approbation de la convention de transfert de maîtrise d'ouvrage pour la réalisation du pôle d'échange multimodal entre la communauté de communes du Pays Viganais et la commune du Vigan, Sylvie Pavlista.
Donc, le pôle d'échange multimodal, on en a déjà parlé un certain nombre de fois. Vous savez que ces travaux dépendent à la fois de la compétence communale et intercommunale, ça dépend de quoi on parle. Et pour des raisons de simplification, on vous propose ici de voter ce que la mairie du Vigan récupère la totalité de la maîtrise d'ouvrage pour simplifier les questions administratives et les travaux. Voilà. Donc là également, nous avons travaillé sur le dossier avec les services de l'agence départementale et on a sollicité aussi l'unité territoriale pour réfléchir à comment gérer au mieux ces travaux. Et c'est pour ça qu'on vous propose de faire cette convention qui sera Avisé également par la communauté des communes.
Question. On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Délibération numéro 11, attribution de subvention dans le cadre de l'OPA. Alors, donc, dans le cadre de l'OPA, vous savez qu'on a, il y a des aides qui sont attribuées donc, aux propriétaires bailleurs comme aux propriétaires occupants. Donc là, nous avons trois dossiers donc, qui ont été validés, vous avez sous les yeux. Une copropriété donc dégradée et puis deux dossiers donc
cinquième dossier depuis le début de l'année.
Ça fait cinq dossiers depuis le début de l'année. Il y a énormément, il y a plus d'une centaine de dossiers qui ont été reçus et ils sont traités au fur et à mesure. Voilà. Donc, c'est des aides très intéressantes, conséquentes donc pour les propriétaires et ça permet d'améliorer l'habitat du centre de l'opération. Avez-vous des questions par rapport à ça? Question, on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Délibération numéro 12, lancement d'une étude signalétique et demande de subvention. Donc, ben, comme je vous le disais tout à l'heure, donc, suite à l'étude de stations de maille mobilité qui ont été menées par le bureau, les bureaux d'études, donc TEMA, il y a eu une réunion publique donc, le 17 septembre. Et donc, on va... Dans le cadre de Petite Ville de demain, nous prenons un bureau d'études pour la refonte de la signalétique de la commune, puisque la signalétique de la commune, c'est du vrac complètement. Donc, ils ont fait ce constat-là. Donc, on va reprendre la signalétique, donc la circulation routière sur commerce et services et sur le patrimoine. Donc, c'est un marché pour travaux sur 3 ans. Voilà. Et c'est financé donc à 50% par la Banque des Territoires, avec un autofinancement pour nous, donc de 50% bien évidemment. Donc 17 500 € à la Banque des Territoires.
Il ne marche plus.
Non, il ne marche plus. Oui. Et c'est trop coûteux pour le faire réparer. Il est obsolète, je crois qu'il n'y a plus de pièces pour le réparer, il est tellement... voilà. Donc moi je pense que cette étude, elle est intéressante et en tout cas les travaux démarreront en 2025. La signalétique stationnement et circulation démarrera en 2025. Voilà. Avez-vous des questions par rapport à ça? Pas de questions, on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Approbation, 13e délibération, approbation du règlement d'aide à l'embellissement de façades et devantures commerciales, Sylvie Pavista.
Donc là, c'est en soutien aussi à l'OPA, ce que vient d'expliquer. Il s'agit aussi de donner un petit coup de pouce pour les aides de rénovation de façades et de devantures commerciales, vitrines ou enseignes. Ça existait déjà. Là, on l'a majoré, donc augmenté pour que ça soit quand même un peu plus incitatif. Donc les aides seraient... un niveau de 50% pour les particuliers et avec un maximum de 15 000 pour les primes patrimoniales, c'est-à-dire des bâtiments qui auraient un patrimonial important, il pourrait y avoir aussi une subvention et puis les aides pour les devantures commerciales, vitrines et enseignes. Donc là, c'est une augmentation par rapport à ce que j'avais déjà précédemment.
Là, quelque chose de plus incitatif, voilà.
Je crois que le maximum c'était 4 000 € pour une façade. Ouais. Donc là, le maximum ça serait 15 000, c'est quand même plus.
Question ? Donc on passe au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Merci. Délibération numéro 14, acquisition de vélos à assistance électrique, renouvellement des aides de la ville. Jules Chamou.
Dans la délibération, depuis la mise en place de ce dispositif, un raz-de-marée, mais c'est une entité. À la pratique du vélo des habitants. Je sais que ça encourage aussi les autres communes à de se poser la question de tiens, le vélo, même si éligible, etc. Là, de nos seules frontières, les gens se posent la question dans leur famille. Ah oui, tiens, j'ai vu ça, etc. Ça fait parler de quelque chose de 81. Et cette année, c'est encore fini. Peut-être que quelqu'un explique qu'il y en a encore quelques-unes cette année. Oui,
et c'est sans condition, oui.
Pour rappel, en 30 secondes, sur le dispositif, vous avez un dispositif à la région, un dispositif à l'État qui ont des plafonds différents de revenus. La région est un peu plus permissive que l'État qui est très restrictif. Il faut être dans le plus bas de l'échelle de revenus. Et donc avec le nôtre qui n'a pas de conditions, vous pouvez avoir soit 200, soit 400, soit 600 euros selon vos revenus. Plus vous avez de à nous, elle est sans condition.
Marc, pas d'observation. Donc on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. 15e délibération, demande de subvention pour le festival autour de la journée de lutte pour le droit des femmes et l'égalité des genres, Elsa Lévin.
Donc, la mairie continuera à s'investir pour les questions occitaniennes.
Le thème cette année?
Le thème cette année, sont d'écologie.
Question? Pas de questions? On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Délibération numéro 16, demande de subvention pour la 9e foire au miel et aux plantes aromatiques et médicinales 2025. Jérôme Sauveplan.
Et donc, comme chaque année, pour participer à l'organisation.
Donc, le 12 octobre, la date, inscrivez déjà la date. Donc, le 12 octobre 2025. Questions? Bon, ils ont pas de... Des observations, des questions? Non. Alors, on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci beaucoup. 17e délibération, acquisition de la parcelle A1848 à Madame Cavalier, Sylvie Pavista.
Alors là encore une fois, on est dans le thème, on s'attale à la sécurité aux abords de la cité scolaire et en règle générale dans notre commune du Bougan. Et donc là, on sait qu'on a un problème qui est particulièrement dangereux pour l'ensemble des usagers, c'est-à-dire le bas de la route neuve avec le croisement de la côte d'Olas. Ça fait une pointe. Quand on descend de la côte d'Olas, on ne voit pas les voitures arriver. Route neuve. Sylvie a rencontré
Madame
Cavalier. On a déjà écrit et Sylvie a rencontré Madame Cavalier, qui est d'accord pour nous céder la pointe de sa parcelle. Et donc nous lui avons proposé 1000 euros pour ces 8 mètres carrés. Alors peut-être on peut trouver que c'est 8 mètres carrés répéré, mais en même temps la sécurité n'a pas de prix. Donc on lui refera la reconstruction de son mur puisqu'il sera démoli et déplacé. Et on prendra les frais de géomètre à notre charge. Voilà. Je passe à ce carrefour, je me dis, oh, quelle merveille que cette dame
est
acceptée, parce que c'est vrai que ça va vraiment changer les choses.
Ah.
Est-ce que ça
vous est fait
pour le mettre?
Eh oui.
Voilà.
Eh oui. Bon.
On est d'accord, en même temps, c'est une question sécurisée, sécurité.
Oui. Donc, je viens tout à
l'heure,
je
veux
ça.
Non, voilà.
Voilà. Mais c'est vrai que cette pointe de mur est... La visibilité sera meilleure.
Question?
Oui.
J'ai acheté cette pointe à cette dame, 2000 euros, et je vous la rends 1000 euros.
Ah!
Eh bien, écoute, ce n'est pas à l'ordre du jour,
alors,
donc...
Alors,
pourquoi c'est trop tard?
Mais on la fera séanter et comme c'est en dessous de 180 000, on fixera le tarif et donc on se la rachète mais 500 euros.
Ah, je me suis fait avoir.
Ah, du capitaliste.
Alors, y a-t-il d'autres observations par rapport à cette délibération? Non. Alors, qui est contre? Qui s'abstient? Merci. 18e délibération, acquisition de la parcelle à 1844 à Madame Jouffroy et Monsieur Silva, Sylvie Pavlistan.
Donc là, vous êtes habitué maintenant, le service de l'urbanisme traque un petit peu ces irrégularités, c'est-à-dire ces portions de route qui sont routes qui ont été décidées comme ça à un moment donné avec les riverains, mais qui n'ont pas été régularisées. Donc à chaque fois, bien entendu, on se rapproche des riverains, on leur envoie un courrier, on les reçoit s'il le faut, pour leur demander leur accord, là à l'euro symbolique, pour avoir ce petit bout de route qui de toute façon existe, mais ce n'est pas une emprise de voirie communale tant qu'il n'est pas délibéré.
Gratuit.
Oui. Là c'est gratuit.
Là c'est gratuit.
Voilà, la 18, si vous voulez bien voter aussi la 19 de la même manière, parce qu'on est dans le même secteur et c'est pour
est-ce
le
est-ce que
même,
vous acceptez qu'on vote la 18,
la
10
La 19.
La 19 c'est la même...
C'est la même chose. Enfin, une petite...
Mais c'est pas mal, c'est la
Alors, la 20, c'est pas tout à fait pareil. C'est, ça se situe. Que je ne dise pas de bêtises, là, c'est l'histoire du talus.
Mais
ça,
non, c'est une session, donc c'est pas pareil. Ah, non, c'est on pas vote pareil. Les deux, l'acquisition, la 18 et la 19. Si vous en êtes d'accord.
Oui.
Oui, c'est bon. Donc, qui est contre ? Qui s'abstient ? Merci. Et la 20, donc c'est une session. Voilà. Session de la parcelle B1629 aux époux Coste.
Là aussi, c'est pour déclasser donc un tronçon et le mettre dans le domaine communal. Donc là, cette parcelle, elle était value à 750 €. On souhaitait réclamer aux époux Coste. Ils nous ont dit néanmoins que ce bout de parcelle, il avait entretenu depuis de nombreuses années et en plus, ils avaient construit un mur avec un accord. Donc finalement, là aussi, ça sera cédé à l'euro symbolique. Vous en êtes d'accord ?
Qui est contre ? C'est bon pour vous ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? Merci. Ben pareil, donc délibération là, 21. Voilà.
Le 21, petite différence, c'est un couple nouveau là, qui habite à Boulièche qui souhaitait utiliser une partie d'un, comment dire, en haut de Boulièche, il y a une zone de retournement avec un parking. Et dans ce parking, il y a un côté, un talus qui descend vers chez eux, que nous, la mairie, on entretient, qui ne sert à rien, qui ne sert pas au parking et qui ne sert à personne. Donc ils souhaitent le racheter de manière à ce que leur face à face, une entrée pour eux, piétonne, pour arriver à leur maison et leur permettre de végétaliser le talus comme ils en ont envie. Donc nous, ça nous fera moins d'entretien, donc on est assez d'accord. Ça n'empiète pas du tout sur le parking. Là aussi, on a rencontré les riverains de ce secteur et on leur vend la parcelle à 840 €. Donc, on compense. Voilà. Donc, je ne sais pas si vous avez des questions.
Est-ce que vous avez des questions ? Pas de questions, donc on passe au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Merci.
La 22, c'est une intégration de parcelles communales dans le domaine public routier. Donc là, c'est dans le quartier des Arènes. Tu peux mettre le plan ou pas ? Dans le quartier des Arènes, donc il y a un endroit qui a basculé donc, dans le domaine public communal. Vous savez que quand c'est basculé, plus on a de routes comme ça dans le domaine public communal et plus on a de subventions qui vont avec. Donc c'est toujours mieux. Là aussi, c'est la réalisation. Ce quartier-là.
Des questions ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? Merci. Délibération numéro 23, délibération d'intention pour la construction de la future caserne de gendarmerie. Et nous y voilà, parce que cette gendarmerie, donc, rappelez-vous, donc on a acheté les parcelles. Martin et Majorelle, Majorelle Massano, donc vous avez tout le plan, hein, toutes les parcelles cadastrées. Depuis, l'État a sorti un risque supplémentaire qui s'appelle le risque ex-aequo, c'est-à-dire le risque ruissellement, et il s'avère que le bas du terrain est concerné par le ruissellement. Donc ce sont des doctrines de la DDTM du Gard, j'insiste bien, du Gard, parce que la DDTM du Gard est assez compliquée, d'après même la préfecture le dit. Oui. Donc, et ils nous disent que sur ces parcelles que la mairie a déjà acquises, un établissement public pour les urgences ne doit pas être construit. Voilà. Donc, on a vu avec. Donc, il y a plusieurs réunions en sous-préfecture qui se font. Il y en a encore une le 20 décembre, parce que la sous-préfète est complètement agacée par ça. Donc, si on a appris que les propriétaires, donc Majorelle Massano, souhaitaient vendre donc, les parcelles et la maison qui sont, vous voyez, entourées en rouge. Donc, si toutefois ces parcelles se vendent, on se donne le droit de préempter, en fait, voilà, pour justement ce projet. La gendarmerie doit nous informer de la possibilité de faire la future gendarmerie sur le haut du terrain, en fait, voir la possibilité. Mais on achètera ces parcelles que si la gendarmerie et si la DDTM est d'accord. Nous n'achèterons ces parcelles-là uniquement dans ces conditions-là, qu'il y ait possibilité de construction. C'est vraiment...
La note commence à être salée.
La note commence à être salée. Sachez que nous avons acheté toutes ces parcelles, plus la maison et autres, donc ça ne m'amuse pas vraiment, à 626 350 euros. Voilà. Donc, voilà, la mairie a très, très envie que cette gendarmerie se fasse. Quand on achetait, en tout cas, c'était les seuls terrains assez suffisamment grands pour pouvoir accueillir une gendarmerie et les habitations. Voilà, entre-temps, le risque ex-aequo.
Avant, c'était le gendarmerie. Alors, oui, 10 mètres carrés et les munitions, ceci, cela. Ah,
donc, oui, le premier bailleur s'était désisté parce que la superficie. Administrative de 200 mètres carrés, elle passait à 400 mètres carrés et donc il ne pouvait pas absorber le surcoût de voilà. Là, il y a un autre bailleur. On verra si voilà. Mais franchement, moi, ça me fait pas rigoler du tout parce que ben, ce n'est pas aux Viganais d'assurer la mission régalienne donc de l'État. Et donc voilà. Donc on a investi, je vous dis, je le répète, 626 350 euros sur ces terrains. Si on ne peut pas faire cette gendarmerie, franchement, moi, je suis voilà. Donc on a une réunion le 20, encore le 20. On a fait plusieurs réunions avec la DDTM du Gard. Et la sous-préfète qui a pris les choses en main. Et donc on a encore une réunion le 20 décembre pour la suite, donc l'épisode et le feuilleton gendarmerie.
Et
l'achat des terrains, sans l'achat des terrains qui sont entourés en rouge, bien évidemment, on ne les a pas encore achetés. Oui, alors donc le bailleur social, enfin le bailleur qui était en charge, parce qu'on achetait ces terrains, quand on achetait ces terrains, les propriétaires, on avait fait estimer par les domaines avaient estimé à 30 euros le mètre carré. Les propriétaires de ces terrains, Martin et Majorelle Massano, trouvaient que c'était pas assez cher, ils ne voulaient pas céder ces terrains à 30 euros le mètre carré. Donc pour eux, la somme raisonnable pour eux était de 50 euros le mètre carré. Donc, on achetait à hauteur de 50 euros le mètre carré. Le bailleur en charge de la construction des gendarmeries doit racheter à la commune les terrains à hauteur de 30 euros le mètre carré. Donc, la ville du Vigan accepte et participe à la construction de la gendarmerie sur la différence entre 30 et 50 euros. Voilà. Donc, voilà, c'est quand même un effort de la collectivité. Maintenant, ça commence à faire beaucoup. Voilà. Et ça fait un peu cher. Il y avait la maison qui était estimée dans les plus de 120 000 euros, plus les terrains. Voilà. Elle est grande, cette maison. Oui. Donc, voilà, on va voir, je vous dis, suite du feuilleton, le 20 décembre à la sous-préfecture. Voilà, cette délibération, c'est dans le but de pouvoir préempter ces terrains à condition que la faisabilité d'une nouvelle caserne puisse se faire sur le haut du terrain. Ça changerait le projet et le bas le bas des parcelles sont en zone de ruissellement, mais voilà, on peut espérer que. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça ? Pas de questions ? Donc, voilà, qui est contre ? Qui s'abstient ? Merci beaucoup. Et puis, on vous tiendra bien évidemment au courant de la suite. Délibération numéro 24, renouvellement et actualisation du traité de concession pour la distribution publique de gaz naturel sur la commune du Vigan entre la ville et GRDF. En fait, c'est une reconduction, c'est une convention qui arrive à échéance. Et donc, c'est pour reconduire cette convention pour une durée de 30 ans. Voilà, une convention qu'on a avec GRDF. Vous avez des questions, c'est tout simple, c'est, voilà, c'est purement administratif. Mais... Est-ce que vous avez des questions? Question, qui est contre, qui s'abstient? Merci beaucoup. Délibération numéro 25, approbation du rapport annuel de l'élu mandataire au sein de la SPN le 30, Sylvie Pavlista.
La commune du Vigan, elle est actionnaire de la SPL 30. On fait partie des 7% des collectivités qui sont actionnaires à 0,48% pour nous. Vous avez déjà voté des actions à hauteur de 5 000 €. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, on avait augmenté notre capital. Donc on a une relation avec la SPL 30 pour nous accompagner dans les berges de l'art. Il serait question aussi dans la rénovation d'écoles Jean Carrière qu'on fasse une convention avec eux également. Et donc vous avez vu le rapport de toutes leurs activités que Nolwenn fait défiler. Leur organisation, elle est à la fois opérationnelle, juridique et financière. Et ils accompagnent les collectivités, par exemple, dans les équipements et les services publics, les projets urbains, fonciers et habitats, et les développements économiques. Ils ont coupé là, les différentes structures avec lesquelles ils ont travaillé en AMO. Et entre autres, ils avaient fait un rapport assez détaillé de l'école de Bretmas qui nous a inspiré pour la rénovation aussi de notre école Jean Carrière, notre groupe scolaire. Je ne sais pas si vous avez des questions par rapport à leur, c'est tout à fait formel, comme on demande d'approuver ce rapport annuel de la SPL 30. Moi, pour y avoir assisté, c'est des équipes sérieuses, très engagées, et ça m'avait l'air tout à fait honnête à tout point de vue. Voilà, je ne sais pas si vous avez des questions.
Vous avez des questions? On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Délibération numéro 26, donc musée Cévenol, approbation du projet scientifique et culturel Denis Sauveplane. Donc nous avons la présence aussi de Estelle Bougette, donc qui est responsable du musée Cévenol, et elle va nous faire maintenant la présentation.
Je fais une introduction.
Tu fais une introduction. Allez, Denis, qui fait une introduction.
On va essayer d'être bref. Bonjour. Bon, tout d'abord un peu d'histoire. Un comité scientifique a été créé par délibération le 29 septembre 2016 pour définir le projet scientifique et culturel du musée, qui est un musée de France et propriété. Le comité scientifique est constitué depuis 2021 de 13 personnes, dont je ne vous dis pas le nom puisque vous l'avez dans le dossier. Un projet qui comprend l'état des lieux, le diagnostic et les pistes a été approuvé en conseil municipal le 6 octobre 2023. Aujourd'hui, c'est le projet complet que dans le dossier. Le projet scientifique et culturel est un outil essentiel et obligatoire pour les musées de France souhaitent rénover leur musée, qui demande des aides de l'État, et il explique les interactions entre les collections, le public, l'environnement et le bâtiment qui l'abrite. Le document s'articule en trois parties, un bilan de l'existant, un état des lieux, un diagnostic et la présentation d'un projet pour les 5 ans à venir. Comme vous l'avez vu et lu, ce document est un très gros travail et je tiens particulièrement à remercier Estelle Bougette, chargée du musée, qui l'a rédigé, en concertation avec l'aide du groupe de travail du musée, à savoir Laure Tessière, Jean-Baptiste Thibault et moi-même. Je dois remercier aussi une personne du groupe qui nous a aidés sur l'aspect architectural, sans oublier la collaboration avec les membres du comité scientifique. Je vais vous présenter maintenant le PowerPoint pour vous expliquer le projet.
Merci Estelle.
Merci. Alors, les aspects financiers que vous avez à la fin,
s'il vous plaît.
C'est les pages de 97 par 100.
Ah, ça va, ça me suffit.
Pardon ?
C'est bien ?
Oui, voilà. Alors pour l'instant, vous avez une idée du budget actuel.
Bon, en gros, il va falloir envisager évidemment d'augmenter ce prévoir d'un usage en mutualisation avec. Envisager évidemment ce sera plus important. Alors, en ce qui concerne les travaux, on a une première tranche de travaux qui va constituer à créer la FFR par un architecte du vivant, mais qui s'appelle évidemment un pré-projet pour ces travaux de création de la ville. Je pense que ça figure en annexe aussi. Le financement de ce petit projet se fera grâce à un fonds de dotation. Et, ce fonds de dotation, il est intéressant parce que c'est un outil d'aider la mairie à faire cette investissement dans la mesure où les dons en nature de la part de l'entreprise. Par exemple, les plans de géomètre que vous avez vu justement ce chantier, partie de leur prestation, hein, pour arriver à exécuter ces travaux. Après du grand projet de restructuration dans le document, là encore, rappel à du mécénat, rappel qui nous laisse ce que. Pour l'instant, ce qu'on nous demande, c'est de le prononcer. Si on trouve le financement, on le fera. Si on ne peut pas
de valider.
C'est attention, ce projet.
C'est d'approuver voilà, le projet scientifique et culturel. Donc c'est tout musée dit labellisé de France doivent avoir un PSC obligatoirement. Donc c'est vraiment un gros projet. Je remercie vraiment le groupe de travail qui a travaillé sur ce PSC. Ça a été vraiment c'est intense, c'est énorme. C'est un beau projet. Après, voilà, ça ne veut pas dire que les travaux vont se faire dans l'immédiat. Et bien évidemment, il faut des financements. Et ça, pour l'instant, on ne les a pas. Mais on peut toujours.
Oui, je précise que ce document
les chercher.
Sur lequel on vous demande va être soumis
au DRAC.
Vous savez, il va être examiné, ça va prendre plusieurs mois, ça va revenir. Il voulait faire d'éventuelles observations. Ça va être amené à remonter un avenant. Et que lorsque tout ça aura été validé au niveau national, par le ministère, qu'on pourra passer à l'étape de réalisation.
Voilà, qu'on aime ou qu'on n'aime pas le musée, en tout cas, je demande beaucoup de respect donc, pour le groupe de travail qui a travaillé sur ce PSC. Voilà. Ah non, mais on aime. J'espère que tout le monde aime bien le musée. Voilà, c'est tout à fait. En tout cas, les Viganais sont attachés à ce musée. Mais je remercie vraiment le groupe de travail qui a travaillé, Jean-Baptiste, Denis, Laure, Eric, Estelle, voilà. Merci vraiment à vous. Oui, Denis.
Je rappelais encore que ce projet est obligatoire si on veut demander des subventions.
Oui,
c'est un, voilà. C'est, la base, c'est obligatoire.
Ce qui peut être intéressant, c'est les recettes après avec les faits de point.
Oui, voilà.
Voilà. Et tout ça peut amener des recettes supplémentaires.
Bien sûr.
Des recettes supplémentaires.
Est-ce que.
Ça m'a bien aussi.
Oui, Jules, tu veux rajouter quelque chose?
Juste une chose sur le projet, comme vous l'avez présenté, vous dites, bon, soit on arrive à trouver les subventions qui font et on pourra faire, soit tant pis.
Non, on ne peut pas tant pis.
Non, mais bon, j'espère. C'est un peu ce qu'on a entendu quand même. Oui. Moi, ce que je dis, c'est qu'il y a des choses dans ce projet. Il y a évidemment toute la partie réaménagement intérieur qui est assez lourde à conduire, mais je trouve que ce qui est intéressant dans votre projet, c'est que vous avez vraiment réfléchi et il y a des idées qu'on peut peut-être faire, si on n'arrive pas à aller jusqu'au bout et tout faire, on peut peut-être faire des tranches, quoi. Et tout ça,
oui,
quand même intéressant.
Oui, oui,
par exemple,
oui.
Cette histoire de buvette, bon, voilà, même ça, si on n'arrive pas à refaire tout le bâtiment, etc., c'est des
voilà.
Choses. Ou un petit coin de.
On peut se faire en avec
voilà, c'est des choses intéressantes. Donc.
Merci.
On pourrait faire des galas de charité.
Hein?
On pourrait faire des galas de charité.
Allez, lance-toi.
C'est grâce à avoir qu'on va pouvoir.
Donc, avez-vous d'autres questions, d'autres remarques sur. Non, on va passer au vote donc sur cette approbation du PSC. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci beaucoup et encore merci à l'équipe qui a travaillé dessus et qui continue à travailler.
On va s'excuser, mais on va être.
Eh bien oui, il y en a qui bossent hein, quand même. Hein.
Voilà.
C'est ça. Hein. Délibération numéro 20. Merci beaucoup. Bonne soirée et bonne fin d'année à vous. Merci. Délibération numéro 27. Demande de subvention auprès de la DRAC Occitanie pour l'exposition donc 2025 au musée Cévenol. Denis Sauveplane.
Oui, donc le musée Saint-Paul proposera une exposition à l'herbier du Berger du 2 juin au 2 novembre 2025. Bon, l'équipe souhaite renouveler l'herbier du Berger, représenté dans les vitrines de la salle d'ethnologie. Et puis, l'exposition se fera en deux parties, qui se déroulera au musée Sévenol. Donc, le premier parcours en ethno-botanique conduit à la découverte de l'herbier du Berger et des travaux réalisés sur le thème d'ADN naturel. Le second parcours plus historique racontera, par la restitution d'un cabinet médical au XVIIe siècle, et direct l'aventure des étudiants en médecine, en pharmacie ou botanique, Pâques du Mont-Aiguel. On va dire que ce projet il a bien avancé déjà et qu'il y a même enfin, l'heure officielle qui travaille beaucoup avec Estelle et il y aura même des il y aura des pharmaciennes du coin qui participeront au projet.
Très belle exposition que je vous invite à partir du 2 juin à venir. Donc d'autres, y a-t-il des remarques?
C'est
au pas de course, oui. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci pour cette belle exposition, Sandron Savenir. Délibération numéro 28, dérogation du maire au repos dominical pour les commerces de détail en 2025. Bon, mais comme tous les ans, hein, il faut qu'on se prononce sur le nombre des dimanches que les commerces ont le droit d'ouvrir. Donc, vous avez les dates.
Voilà la délibération.
Ah, pardon, excusez-moi.
Mais donc,
désolée, je n'ai pas fait attention. J'ai pas fait attention, excusez-moi.
Elle a choisi la délibération la plus difficile. Et tu t'es dit, c'est le moment ou jamais?
Elle a envie d'aller manger.
Ouais.
C'est pas grave. Donc en fait, vous savez que pour décider des dimanches travaillés, bien entendu, on se rapproche des organisations syndicales d'employeurs et de salariés pour décider avec eux le nombre de jours, les dimanches travaillés. Voilà. Donc il y a la liste, comme a dit Sylvie.
Voilà, merci. Je suis désolée.
J'ai rigolé.
J'ai pas regardé. Oui, tu as raison. Détendre.
C'est moi qui vais faire voter.
Allez, fais voter.
Qui s'abstient? Je vous remercie.
Délibération numéro 29, modification du tableau des effectifs suite à avancement de grade et promotion interne. Donc, en 2024, nous avons eu une promotion interne donc, de technicien qui était catégorie C, qui est passé en catégorie B, c'est un homme. Et ensuite, en fait, ce sont des avancements de grade et on a eu un avancement de grade pour agent technique principal deuxième classe pour un homme et pour une femme, donc la parité absolue. Voilà sur cette délibération. Les questions? Non, Gwen, j'ai bien. C'était parfait, merci. Donc, avez-vous des remarques, des questions? Merci. Donc, on va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci pour eux. Délibération numéro 30, mise en place du télétravail, acte de déclinaison. Donc, en fait, nous n'avions jamais délibéré sur la question du télétravail, puisque personne n'avait été concerné, ou en tout cas demandeur. Nous avons deux agents qui... elles sont, pour le coup, là, maintenant concernées. Et donc, il s'agit de régulariser cette demande. Donc, et les démarches nécessaires pour la mise en œuvre de cette demande. Voilà, il y a eu un CST qui s'est réuni en octobre et qui a validé la demande. Pas de questions. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Délibération numéro 31, mise en place d'une indemnité spéciale de fonction et d'engagement police municipale. Donc en 2017, il y a eu un nouveau régime indemnitaire qui légalement, la PM, la police municipale, n'était pas concernée par ce nouveau régime indemnitaire. Il y avait tous les cadres d'emploi sauf la PM. Et depuis 2024, donc pour une mise en œuvre au 1er janvier 2025, il y a une régularisation, donc l'APM, à partir du 1er janvier 2025, est concernée. Voilà. Avez-vous des remarques? Pas de remarques. Donc on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Délibération numéro 32, contrat d'assurance contre les risques statutaires. Donc en fait, cette délibération, c'est donner autorisation au CDG et au centre de gestion de pouvoir passer le marché public avec des assurances. Voilà, pour tous les risques, donc risques décès, accident de service, maternité, maladie professionnelle, longue maladie, voilà. Pour les fonctionnaires et donc affiliés à la CNRACL. Et pour les agents contractuels avec IRCANTEC. Avez-vous des questions ? On va passer au vote. Donc, qui est contre ? Merci beaucoup. J'ai les décisions du maire. Le 18 septembre 2024, accueil tarif, soirée, chanson d'amour et de toujours. C'était un beau spectacle à l'auditorium. Le 2 octobre 2024, au niveau des services des eaux, contrat location bouteille chlore gaz chim. Le 10 octobre 2024 pour le service des finances, virement de crédit de chapitre à chapitre en investissement. Le 12 novembre 2024, le service accueil tarif Carmen Maria Vega. Ça, c'est un spectacle qui a lieu demain soir, un concert qui aura lieu demain soir à l'auditorium. Donc, le 19 novembre 2024 pour le service secrétariat général diminue, dissimulation des réseaux secs, fil nu, donc pour la tranche 1 avenue des Combes, territoire d'énergie gare. Et le 19 novembre 2024, formation à PAVE sécurité exploitant lieu de spectacle ERP première à quatrième catégorie. J'ai des remerciements, les Restos du Cœur qui nous remercient pour le geste de solidarité que vous avez eu cette année encore envers notre association qui continue à œuvrer inlassablement pour venir en aide aux personnes les plus démunies. Donc une subvention de 600 euros qui leur ont été octroyées. Voilà, et ensuite il y avait les Cœurs de l'Égoile qui nous remercient aussi pour. Nous vous remercions pour votre écoute. Nous avons repris les répétitions et le local attenant a été le bienvenu. Donc, ça, c'est Anima qui s'est occupée d'avoir un local pour les Cœurs de l'Égoile. Donc, elle remercie Anima, entre autres. Voilà. Remerciements. Je n'ai pas de questions diverses à ce jour. Juste des infos. Donc, le journal municipal sera. Commencera à être distribué jeudi 19 décembre. Vous avez le feu d'artifice le 23 décembre à 18h donc sur les châtaigniers. Et je vous l'ai dit, demain soir, le concert Carmen Maria. Là, je n'ai pas d'autres infos. Donc, je vous souhaite une très belle soirée. Merci pour votre présence. Très belle soirée. Passez de belles fêtes de fin d'année. Et puis, les vœux, je vous le dis, les vœux à la population se feront le 10 janvier au Cantou. Donc, c'est un vendredi à 18h, donc au Cantou. Ça, c'est 18h.
Non, c'est là, ici.
C'est 19h, pardon. Si, c'est au Cantou. C'est à 19h au Cantou. Non. Donc. Et il y aura un vin chaud. Il y a un vin chaud qui est offert pour le feu d'artifice, oui. Vin chaud devant la patinoire. Voilà. Après le feu d'artifice. Merci beaucoup. Belle soirée. Bonne fête. Thank you.